Il dit dans Matthieu 21, verset 1, et avant de lire ce verset, vous vous rappelez qu'il y a deux types de chrétiens. La Bible montre clairement dans les actes et dans les épîtres. Il y a ceux qui écoutent avec foi et qui reçoivent, et il y a ceux qui sont des auditeurs oublieux et qui ne reçoivent rien. La Bible dit qu'à un moment, Pierre y prêchait la parole et il y a des gens ont été remplis du Saint-Esprit comme ça. Parce qu'ils avaient soif. Et Dieu vous donnera en mesure de votre soif. Si ce matin vous dites à Dieu, Seigneur, je veux quelque chose de ta gloire. Je veux quelque chose de ton amour. Je veux quelque chose de ta puissance. Je veux quelque chose de ta présence. Dieu va vous le donner. Parce que Dieu est un Dieu qui donne. Je sais qu'il y a des pensées qui tournent. Mais j'ai déjà demandé, j'ai déjà fait ça. Je suis à l'église depuis longtemps. J'ai des besoins. Mais vos raisonnements ne peuvent pas vous amener la gloire de Dieu. Ce qui vous amène la gloire de Dieu, c'est quand vous dites à vos raisonnements, taisez-vous. Et je marche avec mon cœur. Écoutez avec foi la parole de Dieu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. On a parlé de tout à l'heure de ce qui s'est passé sur ce chemin. Là, on est en train de voir ce qui s'est passé avant. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»« Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et on disait « Qui est celui-ci » Les foules répondaient, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Les gens demandaient qui c'était parce qu'en fait, lorsqu'un roi arrivait quelque part, dans certaines provinces, dans certains endroits, parfois il pouvait être porté par des esclaves, parfois il pouvait être porté, je ne sais pas, par des chameaux. Mais Jésus a été porté par une bête de somme. Et ce matin, vous avez devant vous une bête de somme, un âne, un vase que Dieu utilise. Il dit, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Le Seigneur en a besoin. Il y a une chose qu'on sait en tant que croyant, c'est que Dieu a besoin de nous. Et Dieu, on va le voir au travers de ce message, est un Dieu qui ne choisit pas les choses comme nous. C'est un Dieu qui ne raisonne pas les choses comme nous. Dieu a choisi le petit, une ânesse, un ânon, une bête de somme, pour aller dessus. Et lorsque cet ânon est entré à Jérusalem, il y avait les foules qui criaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Et l'ânon venait au nom du Seigneur. Ils étaient en train de bénir cet ânon. Dans un autre endroit, dans un autre évangile, il est dit que cet ânon avait été attaché et que personne n'était jamais monté sur lui. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont attachés dans l'église par des faux raisonnements. Beaucoup de croyants qui sont attachés, qui se limitent eux-mêmes et qui limitent Dieu. Mais Dieu dit, le Seigneur en a besoin. Et Dieu a besoin de toi. Je prie que vous puissiez recevoir ce que Dieu va vous dire ce matin. Dieu veut vous utiliser, non pas à cause de vos capacités, non pas à cause de votre théologie, mais juste à cause de lui. Ça fait à peu près un an qu'on est au Canada. On habite à 1 heure de Montréal. Et avant de partir, le Seigneur nous a confirmé notre appel à venir ici, au Québec. Et je disais au Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi moi? Parce que j'ai un appel. Et je disais, mais pourquoi tu m'as choisi? Et clairement, dans mon esprit, j'ai entendu, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de moi. Il ne s'agit jamais de nous. Il s'agit toujours de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés avec comme objectif premier que nous puissions jouir de notre vie. Même la plus grande prospérité physique, financière, émotionnelle, même la plus grande prospérité n'est rien comparé à la gloire que nous allons aller avoir au ciel. Les choses qu'on peut avoir sur cette terre ne sont rien comparées à ce qu'on aura. Si on reste sur cette terre, c'est seulement pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Si Dieu ne nous a pas repris à notre nouvelle naissance, c'est parce que nous devons accomplir la volonté de Dieu. C'est alors en accomplissant sa volonté que nous allons jouir de notre vie. Nous ne cherchons pas à jouir de notre vie. Nous cherchons à accomplir la volonté de Dieu. Et avec cet accomplissement de la volonté de Dieu, nous jouissons de notre vie. Dieu n'a pas d'autre volonté que de sauver les perdus. Si Dieu, le Père, a envoyé Jésus-Christ, c'est certainement l'acte le plus incroyable qui ait eu lieu sur cette terre et dans le ciel. C'est seulement pour sauver les perdus. Si Jésus-Christ a choisi de descendre, de venir sur cette terre, c'est seulement pour sauver les perdus. Le cœur de Dieu, jour après jour, poursuit les perdus. Tous les dons que Dieu nous a donnés, aussi différents soient-ils, convergent tous vers le salut des âmes. Personne n'a comme objectif de premier d'avoir une société, de gagner beaucoup d'argent, juste comme ça. Si Dieu t'appelle à faire du business, c'est pour sauver les perdus. Si Dieu t'appelle à danser, c'est pour sauver les perdus. Si Dieu t'appelle à prêcher, c'est pour sauver les perdus. Si Dieu t'a donné un don quelque part, c'est pour sauver les perdus. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui perdent de vue ce que Jésus a voulu faire. Ils bâtissent des choses. Ils poursuivent le succès. Ils poursuivent la réussite. Mais ils oublient que Jésus poursuivait les perdus. La seule raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour eux. Dieu s'occupera du reste. Dieu s'occupera du travail, de la bénédiction financière. Dieu s'occupera de ton conjoint. Ton conjoint se trouve en Jésus. Souvent, les gens, ils cherchent à droite, à gauche, ils écoutent des enseignements sur le mariage. Comment trouver, comment se fiancer? Mais la réponse se trouve toujours dans un face-à-face avec Jésus. Notre conjoint se trouve caché en Jésus-Christ. Il est caché. Et c'est là, en Jésus, que tu pourras le trouver. Si Dieu nous veut prospères, c'est-à-dire en bonne santé divine et avoir tout en abondance, et pour soi-même et pour donner aux autres, c'est pour sauver les perdus. Il y a un message qui demeure dans le Nouveau Testament, c'est de devenir serviteur des autres. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et oui, il y a eu un message de Dieu sur le leadership, sur le management, sur l'excellence, qui est vraiment du cœur de Dieu. Mais ce message, pris tout seul, amènera des excès. Ce message a pour objectif, si Dieu a voulu créer des leaders, si Dieu a voulu que des hommes et des femmes s'enrichissent, c'est pour donner et pour sauver les perdus. C'est l'objectif de Dieu. C'est quand nous sommes serviteurs des autres qu'alors, en conséquence, nous allons jouir de notre vie. Tout ce que Dieu nous donnera à côté, c'est des produits dérivés. La Bible cherchait le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses que vous priez, vous seront données par-dessus. La prière, c'est rapide. Demander quelque chose à Dieu, c'est rapide. Ce qui est plus long, c'est de se préparer. Préparer son cœur, préparer sa vie. Et de chercher son royaume. Mais je vous assure que dans quelque situation que vous soyez, quelle que soit la situation où vous êtes, si vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice, vous allez être béni. Une bénédiction incroyable que vous ne pouvez même pas imaginer. Les gens cherchent leur bénédiction, alors que Dieu dit cherche ma bénédiction et je te donnerai toutes les choses dont tu as besoin. Combien de fois Dieu a pourvu dans la vie de nombreux serviteurs de Dieu, dans ma vie. Dieu nous a donné, Dieu a parlé à des gens pour nous prêter une maison gratuitement pendant des mois. Dieu a parlé à tellement de gens pour nous bénir. Non pas à cause de nous, juste à cause de lui. Si Dieu veut te bénir, c'est pour que tu sois bien. La Bible dit qu'ils servaient aux tables, les apôtres. Et à un moment, Dieu dit non, c'est plus possible. Ils doivent se donner à ma parole. Passer du temps avec moi. Tu ne peux pas tout faire. Tu es appelé quelque part. Mais là où tu es appelé, là Dieu enverra la bénédiction. Dieu envoie la bénédiction là où tu es appelé. Beaucoup disent, mais pourquoi je ne vois pas ma vie bénie? Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je suis la queue alors que je suis appelé à être la tête? Certainement parce que tu ne cherches pas la bonne chose. Certainement parce que dans ta vie, tu ne cherches pas réellement le royaume de Dieu et sa justice. Oui, mais je vais à l'église, je chante, je suis à la chorale. Ça ne veut pas dire chercher le royaume de Dieu et sa justice. Pas forcément. Tu peux être pasteur, tu peux être chrétien, tu peux être dans une société directeur. Faire ça, entre guillemets, pour Dieu et ne pas avoir le cœur de Dieu. Mais il est aussi possible de le faire avec un cœur pour Dieu et de voir les fruits en conséquence. Joseph ne cherchait pas la richesse. Salomon non plus. David ne cherchait pas la richesse. Moïse ne cherchait pas la richesse. Abraham ne cherchait pas la richesse. Noé ne cherchait pas la richesse. Et pourtant tous, ils furent extrêmement riches. Mais aujourd'hui, il y a eu un message qui a été dévié. Cherchez la richesse, parce que Dieu l'a promis. Mais la Bible dit chercher Dieu. Et il y a des choses qui vous accompagneront. Tous ces gens, Noé était l'homme le plus riche de la terre. Pourquoi ? Il était seul avec sa famille. Toute la terre lui appartenait. C'est un homme extrêmement riche. Tout lui appartenait. Il était riche. Joseph a été extrêmement riche. Tous ceux qui vraiment ont un cœur pour Dieu, il y a normalement des choses qui doivent se manifester dans leur vie. Mais certains cherchent la richesse. Ils la poursuivent, ils travaillent dur, ils disent à leur femme, « Je suis désolé, mais Dieu m'a dit que je dois faire des richesses, etc. » Et ils délaissent leur femme, ils délaissent leur famille. Et des couples chrétiens sont brisés parce que Dieu avait dit, soi-disant, que nous devions être prospères. Observez la vie, observez les choses de Dieu. Oui, il y a des gens qui sont appelés vraiment à faire du business, à faire des finances. Mais ils doivent d'abord chercher Dieu. La Bible dit, j'en donne autant à mes bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, c'est une vraie promesse. Pas pour les feignants, pour ceux qui travaillent vraiment, mais qui s'attendent vraiment à Dieu. Il y a un héritage pour lequel on ne doit pas travailler. Ça, c'est l'héritage qui nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Cet héritage, il est pour maintenant sur cette terre et il est pour le ciel. Mais aussi, vouloir la médaille. Les gens regardent Paul, les gens regardent les apôtres, les miracles qu'ils faisaient, et ils disent, mais waouh, mais comment ils faisaient tout ça? Alors ils disent, Seigneur, comme Paul, je veux la même chose dans ma vie. Comme Salomon, je veux la même chose dans ma vie. Pas les femmes, juste l'argent. Et en fait, ils veulent courir, ils veulent la médaille sans avoir couru la course. Ils veulent la récompense sans avoir couru la course. Et ils disent, mais pasteur, ça fait 6 mois que je suis chrétien, ça fait 1 an que je suis chrétien, ça fait 5 ans que je suis chrétien, je ne vois toujours pas la gloire de Dieu. L'apôtre Paul, 14 ans avant d'entrer dans le ministère, réellement. Moïse et les autres, Joseph. Regardez les années. Nous, on lit ça comme ça. Mais vous serez éprouvés dans votre fidélité. Dieu va éprouver si vous l'aimez vraiment. Dieu va éprouver jusqu'où tu m'aimes. Jusqu'où tu m'aimes. Jusqu'où tu aimes ta femme. Jusqu'où tu aimes ton époux. Est-ce que quand il n'y aura plus rien? Est-ce que quand il n'y aura plus d'argent? Est-ce que quand tu seras attaqué? Est-ce que tu l'aimeras toujours de la même manière? Et Dieu s'attend à ce qu'on l'aime inconditionnellement, parfaitement. Entre guillemets. Jusqu'au bout. Quelles que soient les circonstances de notre vie. Mais le chrétien, lorsque les circonstances sont difficiles, souvent, il s'éloigne de Dieu. Il cherche, il vagabonde. La Bible dit, ne regarde pas, ne projette pas, ne promène pas tes regards inquiets. car je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Il y a une récompense. De la même façon qu'il y a un héritage pour aujourd'hui et pour le futur, il y a une récompense pour ceux qui font la volonté de Dieu. Il y a des nombreuses récompenses que Dieu donne à ses enfants lorsqu'ils accomplissent la volonté de Dieu. Sur cette terre et dans l'éternité. Les gens oublient. Pour une femme, ils quittent le Seigneur. Pour un divorce, ils quittent le Seigneur. Seigneur, tu m'as abandonné. Et ils vont se jeter dans la gueule du loup. Pour un échec, ils quittent le Seigneur. Ils oublient que le temps présent n'est rien comparé à la gloire à venir.
Amen.
Un an de tribulation où tu continues à être fidèle à Dieu, à chercher Dieu, t'apportera des millénaires de sa gloire. Des millénaires de sa présence. Des millénaires où tu pourras juste regarder et le voir en train de te sourire. Et Dieu te dire, je me souviens ce jour-là, personne n'avait cru en toi. Tu n'avais plus d'argent. Tu cherchais du travail. Tu avais été délaissé. Et tu t'es confié en moi. Je te bénis.
Amen.
Et son sourire te bénira.
Amen.
Sur cette terre, nous connaissons 4 ou 5 éléments. L'eau, le feu et les autres. Mais ça, c'est notre intellect, ce qui peut supporter. Au ciel, il y a plus d'éléments. On ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas inventer un autre élément, parce que tout est matière pour nous. Mais au ciel, il y a d'autres éléments. Cette terre est extraordinaire. Il y a des endroits merveilleux. Mais tout ça, c'est dans ces éléments qui sont là déjà. Mais au ciel, ça va être incroyable. Et la Bible promet, la Bible a dit, Jésus a dit, qu'il y aura des récompenses pour ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Il y aura des choses qui leur seront données. Certains pensent qu'au ciel, on sera juste là, en train d'adorer « Alléluia, 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 Alléluia ». Ce ne sera pas ça. Tu vas gouverner, tu vas régner.
Amen.
Tu vas adorer le Maître, juste en bougeant, juste en marchant. Juste quand le vent passera, ce sera comme de l'adoration qui sortira de toi et qui viendra jusqu'au cœur de Dieu. On sera un avec lui. Et dans les difficultés de la vie, dans les choses les pires qu'on peut passer, n'oublions jamais que notre fidélité amènera la récompense. Il y a des récompenses extraordinaires. Des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Les gens pleurent parce que leur mari les a quittés. Et c'est normal. On peut pleurer pour ça. Les gens pleurent parce qu'il y a leur directeur qui les a licenciés. On peut pleurer pour ça. Mais même ça, ce n'est rien comparé à la gloire à venir. Paul a dit, j'ai été persécuté, j'ai été outragé, on m'a craché dessus. Un jour, il s'est fait lapider, on l'a laissé comme mort, les gens pensaient qu'il était mort. Le lendemain, il était en train de prêcher l'évangile. On m'a fait toutes ces choses, mais il dit, je regarde ces choses comme des balayures. Et les gens que Dieu va utiliser dans ces derniers temps, ce sont des gens qui sont morts à eux-mêmes. Dieu va utiliser des gens qui sont morts. Dieu n'utilisera pas des gens en vie. Dieu utilisera des morts. Morts à eux-mêmes. Morts à leur propre volonté. Quand tu fais la volonté de Dieu, quoi que ce soit que ça te coûte, Dieu te bénira toujours. Oui, tu seras la tête. Oui, ton départ, ton arrivée sera béni. Si seulement tu accomplis la volonté de Dieu. Il y a tellement de gens, ils passent par des dépressions, ils sont tourmentés à l'intérieur d'eux, parce qu'en fait, ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Ils pensent que ça vient d'autre chose. Ils pensent que ça vient de leur travail, ils pensent que ça vient de leur épouse, ils pensent que ça vient de leurs enfants, ils pensent que ça vient du temps qu'ils font. Mais en fait, c'est parce qu'ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu pour certains. Il y a des oppressions qui viennent sur eux, parce qu'ils ne sont pas sur le chemin de Dieu. Ils ne sont pas dans ce à quoi Dieu les a appelés. Et quand tu n'es pas dans le chemin de Dieu, ce chemin étroit et tortueux, tu peux être dans le ravin, tu peux être dans le fossé, tu peux être dans le chemin qui est large, oui, mais il y a beaucoup de monde qui passe et ça te casse et ça te fait mal. Et le diable est méchant. Et quand tu es dans le cœur de la volonté de Dieu, là vraiment il y a une bénédiction. Et la dépression, tu peux en sortir. Des problèmes, tu peux en sortir quand tu accomplis la volonté de Dieu. Il y a des gens qui évangélisent, qui annoncent l'évangile pour accomplir des œuvres. Juste parce qu'ils veulent accomplir des œuvres, parce que Dieu l'a demandé, alors ils accomplissent une religion, entre guillemets. Mais qui ne sont pas animés d'un puissant amour pour les perdus. Il y a une joie, et ça, ça fait partie de nos récompenses sur cette terre, pour le gagneur d'âmes. Pour celui qui passe du temps à vouloir amener des âmes à Jésus. La Bible dit que les disciples, ils annonçaient la parole de Dieu, et après, ils étaient remplis de joie. Ils pouvaient être lapidés, mais mis en prison, mais ils étaient remplis d'une joie ineffable. Ça, c'est la joie du gagneur d'âmes. Ça, c'est la joie de la personne qui accomplit la volonté de Dieu. Il y a d'autres gens, ils évangélisent par zèle amer. Il n'y a personne qui évangélise dans ma ville. Il n'y a personne qui évangélise dans mon église. Et ils pensent qu'ils sont seuls. Et Dieu va dire, mais il y en a encore 4000 comme toi. Tu n'as pas fléchi le genou. Tu n'es pas seul. Et des gens, ils évangélisent avec un zèle amer. Ils regardent les autres chrétiens. Toi, tu n'évangélises pas. Toi, tu n'évangélises pas. Ils ne le disent pas. Mais constamment dans leur tête. C'est des pensées qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Et constamment, ils s'enorgueillissent. Ils s'enorgueillissent. Ils disent, non, moi je vais vers les choses faibles. Mais en fait, c'est de l'orgueil. Quand tu regardes les autres comme plus petits que toi, c'est de l'orgueil. On va lire dans Éphésiens chapitre 1. Et au verset 4. On va lire à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je fais une parenthèse. Quand tu as besoin de plus de Dieu, tu lis ce verset. Tu l'imprimes, tu le récites. Il y a toute bénédiction pour toi. Tout ce que tu veux spirituellement parlant, tu as déjà été béni. C'est une puissante promesse. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Si tu es venu sur cette terre, c'est pour célébrer la gloire de sa grâce. Qu'est-ce que sa grâce ? Sa grâce, c'est une faveur imméritée. Quelque chose que tu ne méritais pas. Tu n'as rien fait pour. Absolument rien fait pour. Si ce n'est de dire oui, Seigneur. C'est tout. Célébrer la gloire de sa grâce. Ta vie doit être une célébration constante. Un culte permanent. Un groupe de louanges permanent. Tu dois être une célébration constante dans ta vie. Et la Bible dit une chose. Jésus a dit... Je serai glorifié par leurs fruits. Des gens vont à l'église et disent, Seigneur, je te donne toute la gloire. C'est une certaine réalité. Mais ce qui glorifie Dieu encore en plus, c'est les œuvres que tu peux lui apporter. Ce sont les âmes que tu peux lui apporter. Ce sont les familles que tu peux lui apporter. Ça, ça réjouit le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se repent que pour 1000 autres qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire que pour Dieu, il peut avoir une réunion avec 1000 chrétiens. Et à côté, une âme dans la rue, qui se donne au Seigneur, ça lui fera plus de joie. Juste pour cette âme-là. Bien sûr, il y a de la joie pour le peuple. Mais la Bible dit qu'il y a encore plus de joie pour un seul pécheur qui se repent. Ça, c'est la priorité de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le désir donc de Dieu, dès le commencement, dès l'origine, c'était que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce. C'était ce que Adam et Ève étaient appelés à faire. Célébrer la gloire de sa grâce. Au travers de ce que Dieu avait mis en eux, à l'intérieur d'eux, ils devaient célébrer sa gloire. Tellement de choses cachées en toi. Il y a tellement de choses cachées en toi que Dieu a mis en toi. Et toi, peut-être constamment, tu es en train de parler en négatif. J'ai pas ça, j'ai pas ci. Mais regarde-toi. La Bible dit, l'esprit de l'homme, il connaît les choses qui sont dans le cœur de l'homme. Et l'Esprit de Dieu, il va dans les profondeurs du cœur de Dieu pour te révéler des choses. Alors, quand tu pries en langue, quand tu ne sais pas, tais-toi. Ne dis pas, Seigneur, tu ne fais pas ci, Seigneur, je n'ai pas ça. Juste, tu pries en langue. Tu pries en langue. Tu pries en langue. Et là, il y a des richesses, des choses que ton esprit va aller chercher et va révéler à ta tête, révéler à ton cœur, aux yeux de ton cœur. Et alors, tu pourras les vivre et il y aura une délivrance. Dans Marc 16, au verset 14, après la résurrection de Jésus, il est dit « Enfin, il se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité. » Je vous ai parlé des deux types de cœur. J'espère que vous écoutez encore avec foi. « Et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. » Puis il leur dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Pas seulement aux gens envers qui on a envie d'aller, ceux qui sont comme nous, ceux qui nous ressemblent, mais à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi, si tu es né de nouveau. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Juste après avoir dit ça, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est le testament de Jésus-Christ pour toi. C'est les dernières paroles que Jésus t'a données. Et il s'en alla prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. Il ne confirmait pas la parole des disciples, il confirmait la parole dans la bouche des disciples par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16 devrait être la vie normale du croyant. Il y a une église qui s'est approchée de Dieu au 20e siècle, 19e siècle pour le baptême du Saint-Esprit. Dans une école biblique, je crois en Angleterre, les étudiants ils disent, mais on ne voit plus ça aujourd'hui. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Il y a un réveil, des gens qui sont venus, etc. Et ça s'est répandu partout. Parce que ça avait été oublié par l'Église pendant des centaines d'années. Pendant des centaines d'années, l'Église a oublié cette promesse de Jésus. Ils parleront de nouvelles langues. Oui, il y avait des gens un peu ici peut-être. Mais l'Église, en général, avait oublié cette promesse de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'Église a oublié qu'il y a des signes qui doivent accompagner le croyant. Il y a des signes qui doivent accompagner chaque croyant. Chaque croyant. Si j'ai trois enfants, il n'y a pas à un enfant je donnerai quelque chose et aux deux autres je donnerai absolument rien. Non, j'agirai en tant que bon père avec équilibre. Avec équilibre. Le père de mon père, un jour il a vendu un terrain. Il a je ne sais combien d'enfants, mais beaucoup. Pourtant c'est un Français. Et quand il a vendu ce terrain, il a fait un chèque d'une somme égale à tous ses enfants. Ça, c'est le cœur du Père. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Peu importe ce que tu as dans ta vie, peu importe combien tu vaux, entre guillemets, peu importe où tu en es, la seule chose que Jésus a dit, c'est celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Si tu crois, voici les signes qui t'accompagneront. Ça, c'est une promesse, des promesses que Jésus a données pour son Église. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ah, vous allez dire, oui, on voit des choses comme ça. Oui, mais c'est pour chaque croyant. Annoncer l'Évangile n'est pas donné aux évangélistes seulement. S'occuper des brebis n'est pas donné aux pasteurs seulement. Avoir des paroles de connaissance, des prophéties, des visions n'est pas donné aux prophètes seulement. Non. Ces gens-là sont mis à part pour marcher et travailler à temps plein pour le Seigneur. Mais tous leurs fruits, normalement, on doit les porter. On doit exhorter comme si Dieu parlait au travers de nous. On doit prier les gens pour des gens dans la rue. On doit faire tout un tas de choses pour voir cette promesse se réaliser dans notre vie. Il est dit, allez dans le monde entier. Tu dois obligatoirement aller quelque part pour voir les signes qui t'accompagnent. Tu dois obligatoirement prêcher la bonne nouvelle à la création pour voir la gloire de Dieu. N'imagine pas un seul instant, et les gens se sont imaginé ça. Les gens sont devenus chrétiens et ils ont dit, bon, des dizaines d'aveugles de guéris. Et Dieu lui a montré une chose, qu'elle était aveugle. Jésus a dit à des pharisiens un jour, vous qui pensez voir, parce que vous pensez voir, vous ne verrez rien. Et dans l'église, il y a beaucoup de gens qui pensent voir. Mais j'avoue, pour moi-même, je ne vois pas encore. Je vois effectivement au moyen des miroirs. Je ne vois pas encore. Et ce n'est pas une mauvaise confession et une mauvaise prière de dire, Seigneur, je suis aveugle. Je veux te voir. Mais c'est réaliser là où on en est. Beaucoup de gens, ils pensent être arrivés. Là, je suis arrivé là. Je suis au top. Je suis reconnu, je suis aimé, je suis apprécié. Mais selon le cœur de Dieu, ils ne sont pas du tout au top. Dieu ne les voit même pas. Ils cherchent. Il était parti pour me servir. Où il est aujourd'hui? Tellement d'artistes, tellement de gens. Et je prie quand je vois des gens faire des bonnes choses pour Dieu. Comme votre fille. C'était votre fille? Extraordinaire. Des gens qui ont des dons précieux. Je prie, Père, je prie qu'ils restent jusqu'au bout. Qui demeure. Tellement d'artistes avaient prié, Seigneur, donne-moi une voix. Tellement de gens avaient dit, Seigneur, donne-moi de l'argent pour te servir. Et quand l'argent est venu, quand le succès est venu, ils sont tombés. Ils sont sortis des églises. C'est pour ça qu'il y a des gens que vous connaissez, des gens connus. Les gens savent qu'ils étaient dans des églises avant. En France, il y a un homme, il était chrétien. Il a dit, Seigneur, je veux te servir. Aujourd'hui, il a toutes les chaînes, quasiment en tout cas, les studios TV à Paris, TF1, tout ça là. Il est dans plus aucune église. Il ne sert plus Dieu. Dieu établit des gens, Dieu il soulève des gens. Mais quand les gens perdent de vue ce pourquoi ils sont nés, célébrer la gloire de sa grâce, c'est plus possible. Et il y a des gens, pour beaucoup de gens, la grâce s'en va. Et après, c'est la misère. Et ils disent, mais Seigneur, pourquoi? Parce qu'ils se sont écartés. La Bible dit de croire à ce que Jésus nous a dit. Il y a peu de gens qui font ce que Dieu leur dit. Et il y a encore moins de gens qui prêchent l'Évangile. Et de ceux qui prêchent l'Évangile, il y a encore moins de gens qui croient aux promesses qui accompagnent l'Évangile. C'est pour ça qu'on voit peu de choses aujourd'hui. Parce qu'il y a peu de croyants. On est arrivé avec des croyants incrédules. C'est terrible. Des croyants incrédules. Tellement d'églises. Et je suis béni parce que hier soir, j'étais avec votre pasteur. Il a dit quelque chose. Il a dit, les gens ont soif de Dieu. J'ai rencontré plusieurs pasteurs. J'ai tellement entendu. Dans ma ville, c'est pas possible. Les gens ont le cœur dur. Et je suis béni de ce qu'il a dit. Parce que j'ai la même confession. Les gens ont soif de Dieu. Les gens cherchent Dieu. Les gens cherchent Dieu. Les gens, ils aspirent à Dieu. Les gens disent, oh, à Boston, c'est difficile. D'autres disent, à New York, c'est difficile. D'autres disent, en France, c'est difficile. D'autres disent, dans tel pays d'Afrique, c'est difficile. Mais il n'y a aucun endroit qui est difficile. Ézéchiel était là, face à une vallée d'ossements desséchés. Des ossements desséchés. Et Dieu lui a dit, parle. Et de la même manière, Dieu nous a dit, parlez. Allez et annoncez ma parole. Et on dit, mais Seigneur, les ossements sont desséchés. Seigneur, je m'attendais à voir des gens au moins. Mais là, c'est des squelettes. Et en plus, des squelettes desséchés. Et on est entouré de gens qui sont complètement aveugles. La Bible dit qu'ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Entre guillemets, ce n'est pas de leur faute. Ils sont aveuglés. Ils sont nés, ils ont été aveuglés. Effectivement, ils sont restés à cause de leur cœur. Par leur faute. Et nous devons aimer ces gens. Nous sommes, en tant qu'êtres humains déchus de ce qui s'est passé avant, il a été construit dans notre tête, dans nos façons de penser, d'aimer les gens comme nous. Jésus a dit, quelle récompense mérites-tu si tu aimes les gens qui t'aiment? Aucune récompense. Pas de récompense. Mais si tu aimes ceux qui ne t'aiment pas, il y a une récompense. Et le croyant, et beaucoup de gens qui servent Dieu, ils sont appelés, leur cœur est attiré, ou plutôt je dirais leur âme, leur façon de penser, est attirée par les gens qui leur ressemblent. Ils se disent, si j'ai un millionnaire dans mon église, si j'ai un millionnaire comme ami, si j'ai un millionnaire dans ma société, alors là je serai béni. Mais Mais Dieu, la Bible dit qu'il allait vers... Cette femme, elle était au pied de Jésus. Elle a pleuré. Elle essuyait avec ses cheveux les pieds de Jésus. Proche de lui. Jean, sur la poitrine de Jésus, proche de lui. Dieu utilise des gens qui s'humilient. Des gens qui s'humilient. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Dans Jean 14, 12, je vais juste vous le lire. Il est dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu fais les œuvres que Dieu fait? Je n'ai pas encore accompli ce que Jésus a fait. Et pourtant, je suis appelé à l'accomplir. Mais si je lis tout un tas de choses dans la Bible, je recherche les versets qui me plaisent. Je ne pourrais jamais vivre ça. Jamais. Il y a des trésors incroyables dans la parole de Dieu que beaucoup de chrétiens ne verront jamais. Parce qu'ils se trompent d'objectif. Mais Jésus a dit, ils feront les œuvres que moi je fais. Et encore, ils en feront de plus grandes. Et des gens, ils prient, Seigneur, tu as dit dans ta parole, je ferai des choses plus grandes. Et ils parlent. Ils disent, je vais faire des choses plus grandes pour Dieu, je vais faire des choses plus grandes pour Dieu. Ils arrivent au travail le lundi, ils voient une femme, une collègue, qui a l'air déprimée, et ils la laissent comme ça. Ils disent rien. Et jour après jour, les jours passent, ils retournent à l'église dimanche. Ah, je veux voir ta gloire, Seigneur. Et ils font rien. C'est normal, il ne faut pas s'étonner de ne pas voir la gloire de Dieu dans ces cas-là. Et c'est là vraiment une grande question que l'Église, que le croyant devrait se poser. Où j'en suis avec Dieu? J'ai cette promesse de Dieu. Et il est dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages, etc. Ils imposeront les mains aux malades. Mais ce n'est pas tout. Jésus, il n'a pas fait une liste. Parce que Jésus ne s'enfermera jamais dans une liste. Il a parlé de signes. Et de certains signes qui accompagneront les croyants. Mais il y a beaucoup d'autres signes. Les gens veulent toujours limiter Dieu quelque part, le mettre dans une boîte. Dieu, c'est ça. Il a dit tac, 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 tac. Parce que les gens sont cartésiens. Les gens pensent, raisonnent, réfléchissent. Dieu fait comme ça, part. J'ai tellement été béni avec votre pasteur. Il a dit des choses. Vous êtes béni de l'avoir vraiment. La façon dont on limite Dieu, dont on met Dieu dans une boîte. Et tous, on est passé par là. De mettre Dieu dans une boîte. Si je prie, alors je ferai ça. Alors Dieu va faire ça. Si je jeûne, alors Dieu va faire ça. Si je travaille beaucoup, alors il y aura ça. Mais Dieu est complètement au-delà de ça. Dieu agit avec le cœur. Parfois, tu peux ne pas prier pour quelque chose. Et Dieu répond à ce que tu avais sur le cœur. Parce que Dieu travaille de cœur à cœur avec toi. Il y a des gens, ils n'ont pas prié. Et ils disent, j'ai reçu ça, et c'était sur mon cœur, je ne l'avais même pas demandé à Dieu. Même je vois un homme aveugle, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et toujours Dieu est comme ça. Les gens disent, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Mais Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux? Réellement, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que Dieu a toujours besoin d'une parole avec quoi travailler. Mon pasteur, qui s'appelle Joël Fink, la Bible nous montre clairement que nous avons un terrain, nous construisons un terrain. Tous, nous sommes dans le jardin de Dieu. Et Dieu a dit qu'il ne peut pas sortir de la bouche de l'eau salée et de la bonne eau, de l'eau qui n'est pas salée. Et avec tes paroles, tu amasses des choses dans ton terrain que tu n'imagines même pas. Et nos paroles, le diable en a besoin. Le diable travaille avec. Il en a besoin, entre guillemets, il le veut. Dieu travaille avec. Les gens travaillent avec. Il y a tout un monde qui travaille avec ce qui sort de notre bouche. Quand tu dis, Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur, je ne peux rien faire, t'inquiète pas que le diable va travailler. Parce que si tu dis quelque chose qui n'est pas la vérité, tu vas faire travailler le monde du mensonge en ta faveur. Si tu dis des choses qui sont la vérité, tu vas faire travailler le monde de Dieu en ta faveur. Amen. Il y a des églises, c'est des réunions de prière catastrophiques. Tu sors de là, t'es mal, t'es plus mal que quand t'es rentré. Parce que c'est des confessions, mais des prières, c'est n'importe quoi. Des prières bizarres. Vraiment bizarre. Des choses que Dieu n'a jamais dit. Des choses de dépassées de l'Ancien Testament. Ils ne sont plus valides aujourd'hui. Il y a des choses qui sont valides à la lumière de notre alliance avec Jésus. Et aussi longtemps que l'Église fermera les yeux sur sa condition, les pécheurs continueront à courir en enfer. La sœur nous a parlé, cette femme qui s'est jetée dans le fleuve, c'est pas normal. C'est pas normal. La Bible dit que Lot, le juste, il tourmentait son âme jour et nuit à cause des péchés qu'il voyait dans sa vie. Dans l'Ancien Testament, on a l'impression que Lot il fait beaucoup d'erreurs. Effectivement, il en a fait certainement. Mais étonnamment, dans le Nouveau Testament, quand il est parlé de lui, il est parlé de Lot, le juste. Et qui tourmentait son âme jour et nuit. Ça ne nous était pas dit. On l'a su après. Il tourmentait son âme. Et certainement, même s'il avait un penchant pour ces choses, peut-être, parce qu'il était là-dedans, environné complètement, constamment, il avait un cœur de se dire, si je suis quelque part dans cette ville, c'est pas possible. Et toi, et ça doit être le cœur du croyant, si mon église est bâtie dans cette ville, il ne doit plus avoir de viol. Il ne doit plus avoir de femmes battues. Dans mon immeuble, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui battent leurs enfants. C'est pas possible qu'il y ait de l'injustice. Tu dois te soulever, pas contre ce qui se passe dans ta vie, contre ce qui se passe dans la vie des gens qui t'entourent. Ton cœur doit être porté vers eux. C'est pas possible. Tu dois tourmenter ton âme. Comme Jésus, à Gethsémané, c'est ce qu'il a fait. Il tourmentait son âme jusqu'à ce qu'il y ait des sangs. Il a dit, mais as-tu été jusqu'à ce qu'il y ait des sangs qui sortent de toi? Est-ce que tu as été jusque-là? Est-ce que tu as été éprouvé jusque-là? Seigneur, je suis éprouvé, je suis dans le feu. Tu n'as pas été jusque-là. Jésus, à Gethsémané, il a tourmenté, il était tourmenté. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces attaques qui veulent que je ne fasse pas la volonté de Dieu. Pierre qui était venu, non Seigneur. Il a parlé au diable. Pierre a voulu une chose. C'était le diable qui voulait au travers de lui à ce moment-là. Que Jésus ne fasse pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il a été si dur. Parce qu'il savait, il voyait le diable qui était en train de commencer. Même si le diable ne comprenait pas tout, il y avait certaines oppressions. Il y avait des choses qui étaient là, terribles. Et ce que Jésus a vécu sur la croix, ce qu'on voit dans le film La Passion, par exemple, c'est rien comparé à ce qu'il a vécu spirituellement parlant. Là où il a pris tous nos péchés, là où il a pris tout ton mal-être, tout ce que tu peux subir de la vie. Jésus a dit, moi je ne peux rien faire par moi-même. Je ne sais pas combien il reste de temps. C'est fini déjà? Oui? Ok. Je vais terminer. Jésus a dit, je vais terminer là-dessus. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Si Jésus lui-même a dit, je ne peux rien faire par moi-même, à combien plus forte raison nous, on ne peut rien faire par nous-mêmes? Absolument rien. Absolument rien. Et je crois que le message que Dieu a voulu donner aujourd'hui, c'est, tu ne peux rien faire par toi-même. Nous sommes comme des ânes. Sérieusement. Et Jésus veut monter sur nous. Parce que, alors que Jésus monte sur nous, alors qu'on est en train de faire la volonté de Dieu, les gens crient, waouh! Gloire à Dieu, mais c'est pas toi qui est important. C'est celui qui est sur toi. Et en fait, il est à la fois sur toi, mais à la fois, il te prend dans ses bras. Il te prend dans ses bras. Un dernier verset. Ah, il faudra me faire revenir, pasteur. Dans Ésaïe 42, au verset 13. L'Éternel sort comme un héros. Il excite son zèle comme un homme de guerre. Il lance la clameur. Il jette des cris. Il triomphe de ses ennemis. Ça, c'était les gens de l'armée. Ils allaient, c'était des gros barbares. Ils prenaient de la poussière, ils disaient « Waouh !» Et ils criaient comme ça vers les ennemis. C'est comme ça qu'il est. Et Dieu dit « J'ai longtemps gardé le silence dans ta vie. Je me tais, je me contiens. Je gémis comme une femme en travail. Je suis haletant et je souffle tout à la fois. Ça, c'est Dieu enfermé dans un cœur orgueilleux. C'est Dieu enfermé dans un cœur qui ne croit pas en la parole de Dieu. Il est là comme un bébé qu'on ne peut pas laisser sortir. Et la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. À l'intérieur de nous, il y a des plus grandes richesses. Il y a Dieu qui vit en nous. Le plus grand vit en nous. Mais nous le limitons par nos façons de penser. Dieu aime utiliser des gens quand les gens ne pensaient à rien. Souvent, des gens ont vu la gloire de Dieu éclater alors qu'ils ne s'attendaient à rien du tout. Parce que Dieu veut nous montrer il n'en sera pas fait selon toi. Que Dieu vous bénisse.
Tout à l'heure, vous avez parlé de l'âne. C'est l'âne, hein? L'anon.
L'anon.
Ok. Sur lequel Jésus était. Il y avait une grande foule qui a commencé à l'acclamer. On l'acclamait Jésus sur l'âne. Cet aspect-là m'a beaucoup marqué. Parce que l'âne, en ce moment-là, n'allait pas où elle voulait. Mais elle allait où Jésus voulait. Et je crois que il y a beaucoup de projets que nous avons et nous sommes distraits par beaucoup de choses. Je crois qu'il est grand temps de nous poser la question, est-ce que nous allons où le Maître veut ou nous allons où nous voulons? Et vous avez dit que beaucoup de dépressions, des problèmes qu'on a, la colère, la haine et toutes ces choses en nous se suscitent parce que nous sommes en dehors de ce que Dieu veut pour nous. On n'est pas, le Maître n'est pas sur nous en train, et nous n'allons pas dans sa direction à lui. Nous avons pris nos propres voies. Et vous avez aussi dit que ça fait que nous sommes aveugles. Bien que Dieu a beaucoup de choses, il dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous savez, ça m'a presque fait envie de pleurer. Je me dis, avec toutes ces promesses, beaucoup d'entre nous, on est convaincus qu'on vit comme des perdus. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette réalité de Dieu, bien qu'on a les mains levées. Et vous avez dit qu'on amène à Dieu les œuvres qui le glorifient. Les familles, je suis convaincu que quand on sera devant Dieu, nos œuvres parleront pour nous. On n'aura pas à expliquer. Il y aura des gens qui vont dire, je le connais. Il était à la station, il m'a parlé comme ça, il m'a aimé, il m'a serré dans les bras, il m'a pardonné. Les gens parleront pour nous. Et je prie, vraiment ma prière, je dis, Seigneur, ouvre-nous les yeux de voir au-delà de nos conditions médiocres, de nos problèmes diabolique, je dirais. Et ouvre-nous les yeux de faire comme Étienne. Pendant qu'il est lapidé, lui, voyait Jésus. Pendant qu'on est comme en étouffé dans ce siècle, lui, il est en train de voir Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever? Et vous allez faire cette prière-là. Vraiment prier que Dieu nous fasse la grâce de vraiment aller au-delà et entrer dans les choses de Dieu, pas dans nos choses à nous.
Alléluia. Alléluia. Précieux Père. Précieux Père. Précieux Père. Le Seigneur est toujours fidèle. Ce peuple, précieux Père, au nom de Jésus-Christ, je parle aux chaînes, j'ordonne aux chaînes de tomber dans les vies. Au nom de Jésus, le mal-être, les mauvaises façons de se voir soi-même,